Voici une illustration du Léviathan.
Aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus, les belles histoires.
Bonjour à tous et à tous, nous sommes Place d'Armes à Lille-Jourdain pour la troisième édition de Place à la BD. Et je suis en compagnie de Damien Canto. Bonjour.
Bonjour à tous.
Alors Damien n'est pas n'importe qui, c'est un spécialiste de la BD. Nous avons énormément de chance. Peux-tu te présenter un petit peu en quelques mots ?
Voilà, je suis journaliste de bande dessinée depuis une quinzaine d'années. Je suis rédacteur en chef d'un site qui s'appelle Comic Strip, voilà, où nous sommes 22 rédacteurs.
Ah oui, quand même, c'est pas rien. Et nous avons avec nous, pour commencer cette belle, ce beau plateau radio, Muriel Coiffard et Mickaël Roux. Bonjour.
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 Et bien, c'est parti pour les interviews.
Oui, donc les deux invités que nous avons aujourd'hui, les premiers, pardon, c'est donc Mickaël Roux qui a notamment créé la série Préhistorique Creek et Muriel Coiffard qui a donc créé son dernier livre qui est le livre de Mu. Alors, est-ce que, pour commencer, on pourrait poser une première question à Mickaël. Mickaël, est-ce que vous pourriez nous dire qui est Rick, ce personnage de votre série ?
Ben, du coup, c'est pas moi qui l'ai écrit, donc c'est Hervé Éparvier, le scénariste. Donc ce petit personnage, c'est un petit gamin qui est à l'époque de la préhistoire. Donc, grosso modo, c'est une sorte de petit... C'est un peu comme les Simpsons, mais à la préhistoire. Quoi. C'est
voilà.
Un peu ça, quoi, dans le début.
Ça veut dire que c'est une série grand public humoristique.
Oui, tout à fait. Ouais. C'est à partir de 7 ans. Et voilà, c'est des gags d'une page, des petites histoires, après en fonction de certains tomes.
Voilà. Souvent, ces gags, d'ailleurs, en une planche, comme vous avez pu le dire, c'est un peu comme les pierres à feu, c'est-à-dire qu'il y a des petites choses, des petits gags anachroniques.
Oui, parce que déjà, dans l'histoire, dans les premiers gags, ils vont découvrir un œuf de dinosaure, alors que les hommes préhistoriques, forcément, n'avaient pas rencontré les dinosaures.
Et donc, ça veut dire que c'est une préhistoire particulière, fantasmée.
Oui, bah après, c'est comme si c'était des gamins d'aujourd'hui, mais ils jouaient aussi à l'époque de la préhistoire, de la même manière, dans cette série-là, en tout cas.
Donc, c'est un prétexte de la préhistoire.
Oui.
C'est juste parce que ça parle aussi aux enfants, dans ce sens-là, que...
Bah, je pense qu'on a tous un petit peu aimé les dinosaures, les choses comme ça. Donc, du coup, c'est vrai que se replonger dans cet univers-là, ça tombe un petit peu dans nos souvenirs d'enfants.
Ah, donc ça veut dire que vous aussi, vous prenez du plaisir quand vous dessinez cette série ?
C'est obligé. Si on ne prend pas de plaisir à dessiner, on ne fait pas de BD.
Ah, d'accord. Vous avez quand même un parcours qui est assez important en bande dessinée déjà, où vous avez souvent eu des collaborations avec d'autres auteurs. Est-ce que là, comment vous avez pu rencontrer votre scénariste, qui est donc, je ne me trompe pas,
Hervé Éparvier.
Hervé Éparvier, ouais. Pardon.
Non, là, c'est que la rencontre s'est faite directement par l'éditeur à l'époque.
D'accord.
C'est-à-dire que c'est eux qui sont venus me chercher pour savoir si ça m'intéressait de faire cette série-là.
Donc c'est quand même, vous êtes quand même à la tête de 6 tomes, ce qui est quand même assez important. C'est une série quand même au long cours, on pourrait appeler ça comme ça, puisqu'elle a débuté il y a déjà depuis 2017. C'est quelque chose que vous appréciez aussi, cette temporalité, quelque chose qui revient fréquemment en bande dessinée.
Bah, c'est toujours intéressant d'avoir une série qui continue sur plusieurs tomes. Du coup, bah, ça fait partager avec le public régulièrement. Voilà, des rencontres, donc c'est plutôt sympa. Ouais.
Oui, parce qu'en jeunesse, quand c'est régulier aussi, ça permet de fidéliser les enfants qui n'ont pas trop à attendre dans le temps d'attendre la création de l'album, bien sûr.
Ouais. Donc c'est plutôt rapide, il y a plus à faire. Donc,
ouais. Ça veut dire que comment vous travaillez avec Hervé ? C'est lui qui vous donne les scénarios tout faits ? Comment ça se fonctionne, votre duo ?
Bah, on a un petit peu parasité le lien avec l'éditeur.
Ah,
parce
d'accord.
que ça...
Ah.
Ça prenait trop de temps,
d'accord,
de passer à chaque fois. Donc du coup, il m'envoyait les scénars, on les lisait tous les, on les faisait ensemble. Voilà.
D'accord.
Je faisais les stories et puis on en parlait. Et après, on envoyait à l'éditeur. Comme ça, nous, on était déjà d'accord. On n'avait pas une étape supplémentaire.
D'accord. Story, est-ce que vous pourriez expliquer, parce que peut-être que certaines personnes ne savent pas ce que c'est qu'un storyboard.
Bah, c'est un peu crayonné. Storyboard, c'est un peu de faire de manière assez rapide de placer la taille des cases, les personnages, les plans, etc.
D'accord. Ça veut dire que, est-ce qu'il y a un ping-pong entre vous ? Est-ce que vous aussi, vous soumettez des gags à Hervé ou comment ça se passe ?
Non, je laisse faire.
Vous n'avez pas d'humour ?
Non. On n'a pas le même humour.
Ça peut arriver. Après, ça fonctionne très bien. On en a déjà vu des séries dans la préhistoire pour les enfants. Et la vôtre, puisque j'en lis souvent des albums jeunesse, c'est l'une de celles qui était la plus aboutie et la plus amusante.
Merci.
C'est assez paradoxal parce que vous avez deux univers, Muriel et Mickaël, qui sont un peu différents. Muriel, vous avez donc, ça on peut le dire, vous êtes illustratrice, vous êtes la régionale du coin, vous n'habitez pas très loin d'ici.
Absolument, voilà. J'habite à 12 km d'ici.
Et donc vous venez présenter votre livre, le livre de Mu.
Oui, entre autres.
Entre autres.
Parce que ce livre a déjà 4 ans.
Déjà.
Et donc, il ne me reste plus que quelques exemplaires. Alors, courez à Lille Jourdain. Mais par contre, j'ai plein d'autres
petits livres.
Petits ouvrages.
Des portfolios, j'ai vu aussi.
Voilà. Et puis aussi, j'ai beaucoup de petits Leporello.
Ah,
je
ça
sais
c'est
pas
bien.
Si tout le monde sait ce que c'est qu'un Leporello. C'est un petit livre en accordéon, tout simplement. Mmh. Et j'adore explorer comme ça les différents supports sur lesquels on dessine. Alors moi aussi, c'est de la bande dessinée, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire que c'est des bandes de papier sur lesquelles je dessine et je les plie pour raconter des histoires. Alors évidemment, c'est un autre format que celui de
Mickaël,
mais effectivement, ça reste un plaisir toujours de dessiner, de raconter des histoires. Et moi, je fais ça en toute indépendance puisque j'ai pas de scénariste, je fais tout. Autrice complète, oui, si on peut dire, même s'il y a encore toujours des tas de choses à explorer. Et par contre, je mets un point d'honneur, oui, c'est vrai, à garder toute mon indépendance et ma liberté de dessiner. C'est pour ça que ce que je propose aujourd'hui, effectivement, ça va du livre de Mu, un livre qui ressemble à tous les livres, qui a un format A5 et qui correspond à tous les codes de l'édition, mais aussi plein d'autres petits ouvrages qui sont complètement déformés, entre guillemets, puisqu'ils sortent du cadre du format classique.
Mais comme vous disiez tout à l'heure que le Leporello, c'était de la bande dessinée, en effet, il existe. Il en existe en bande dessinée. Rémi Farnos, qui est là aujourd'hui, on a fait chez Polystyrène, ça existe en bande dessinée, il y en a plein, il y a Josaco qu'on a fait, qui font des fois plus de 10 mètres,
voilà,
recto verso. Donc, voilà.
Alors moi j'ai qu'une imprimante A4,
donc ça ne peut pas faire 10 mètres.
Donc pour un ouvrage, je suis allée voir un imprimeur parce que j'avais quand même envie de faire un truc assez long, mais bon, ça ne fait pas 10 mètres, hein, c'est, voilà. Mais effectivement, mon imprimante a bien chauffé là, ces dernières semaines. Mais voilà, c'est vrai que j'aime bien aussi l'idée de faire ça toute seule dans mon petit coin, puis après de voir un peu la réaction des gens, discuter avec eux sur cette façon aussi de se raconter. Parce que, bon, voilà, on se raconte.
Et si on prend le livre de Mu, qui parle d'un mariage, qu'est-ce que ça représente, le mariage ? C'est quoi comme moment important une vie ? Pourquoi c'était important de parler d'un mariage ?
Non, c'était juste un prétexte, en fait, à raconter des tas d'histoires de famille. J'ai pas été chercher très très loin les histoires, parce que quand on a une grande famille, ben forcément, il y a des grandes et des petites histoires, mais il y en a plein qui sont plus ou moins intéressants, mais à nous, auteurs, de faire des choix. Et donc voilà, ce mariage, c'était en fait vraiment un prétexte à raconter des histoires. Et je trouve que dans le mariage, c'est encore finalement peut-être un rendez-vous de famille auquel toute la famille s'accroche. Quand il y en a, parce qu'il n'y en a plus beaucoup. Alors, je ne suis pas je suis pas pour le mariage absolument, hein, loin de moi cette idée, mais je trouvais que malgré des fois des tensions dans les familles, ça réunit quand même. Bon, il y a plein d'autres occasions de se réunir aussi, hein, mais c'était un peu fort. Et aussi, quand il y a un mariage, souvent, ça déborde un peu, et je trouvais que c'était intéressant d'avoir ce prétexte-là, en tout cas.
Il y a un mariage dans... Est-ce qu'il y a un mariage dans Préhistoire Creek, Michaël Roux ?
Il y a de la drague un peu.
Il y a de la drague un peu, ah oui, c'est vrai, exactement. C'est, ah, peut-être qu'à un moment, il se mariera. Et on disait tout à l'heure, Michaël, que c'était des gags en une planche, c'est-à-dire qu'il y a une page et il y a un gag. Ça, c'est quelque chose que vous appréciez aussi, ce tempo aussi, cette temporalité de... Un peu, alors si les gens ne connaissent pas, c'est un peu le format de Gaston Lagaffe, pour aller vite.
Mais c'est un format qui me plaît bien et j'aime encore plus le format demi-page,
gag,
qui est beaucoup plus difficile parce que ça demande beaucoup plus d'écriture. Mm-hmm. Mais c'est une mécanique vraiment d'écriture, quoi. Mais faut trouver plusieurs mécaniques pour justement... L'intérêt, c'est que la dernière case découvre la chute et que le lecteur la découvre surtout pas avant.
Avant.
Ça veut dire que sinon, c'est un peu raté. Complètement.
D'accord. Ça veut dire que c'est un format aussi qui est assez agréable, notamment qu'on peut voir aussi dans des journaux comme le journal Le Spirou. C'est un peu... Ça veut dire que c'est vos influences, les journaux comme ça, ou des gags en une planche.
Ben moi, j'ai commencé à travailler justement avec la presse à l'époque.
D'accord.
Donc, j'ai travaillé pour Spirou, j'ai travaillé pour Landfeust, Mag, j'ai travaillé aussi pour... je sais plus. Cho, il y avait Cho aussi.
Il y avait Cho, c'est vrai.
Et c'est vrai, et c'est une bonne méthode de travail parce qu'on a souvent, on n'a pas beaucoup de temps. Mm-hmm. La presse, c'est voilà, Spirou, c'était toutes les semaines, donc il fallait trouver des gags assez rapidement. Après dans le show il y avait une thématique, donc c'était mensuel, mais d'un côté il fallait être aussi rapide, donc c'est une bonne école. C'est vrai qu'aujourd'hui la presse il y a beaucoup moins. Où ils font vraiment de la création de pages, donc c'était plutôt une bonne école pour apprendre à dessiner si rapidement et trouver des idées.
D'accord. Ça veut dire aussi que c'est un format qui fonctionne bien sur le jeune lectorat, et c'est aussi un format qui laisse place beaucoup à la mise en scène, un peu comme un directeur d'acteur au théâtre. C'est un peu dans ce sens-là aussi.
Bah, c'est que moi, du coup, quand je les dessine, les personnages, quand j'écris les histoires, j'invente les dialogues. Donc, du coup, je les dis aussi fort.
Ah oui, donc, d'accord, voilà, vous les jouez.
Je joue, ouais, c'est d'accord. Ça. Puis ça permet d'avoir après l'attitude aussi graphique des personnages en fonction de la
posture.
Question et la réponse.
D'accord. Muriel, vous, c'est assez particulier aussi. Le livre de Mu, c'est un mariage. Et souvent, les mariages, ils sont plutôt colorés, il y a de la couleur. Et là, votre livre, il est en noir et blanc. Pourquoi c'était important aussi que ça soit en noir et blanc ? Pourtant, on peut même percevoir vous avez fait des choses sur les vêtements. Donc, pourquoi c'était en noir et blanc ?
Bah, c'est une histoire de plaisir, en fait, hein, parce que justement, le noir et blanc permet comme ça de décorer, entre guillemets. C'est pas un très joli mot, mais enfin. Bon, moi, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas, ça permet de chercher toujours d'autres motifs pour animer les choses, et que justement, le noir et blanc, c'est une contrainte finalement dans ce cadre-là. Et donc, le travail résidait justement dans le fait de rendre ces festivités joyeuses et collectives, j'allais dire n'importe quoi, ces festivités joyeuses et voilà, point. Et donc du coup, c'était une façon, oui, de rechercher la joie et le dynamisme en fait dans les motifs. Et le vêtement, c'est vrai que c'est un...
C'est quelque chose qu'on connaissait.
Un support, oui, voilà, qui est top pour ça, parce que...
Parce que vous avez travaillé tout. Un peu dans ce monde-là,
ouais,
pour
ouais,
Hermès,
ouais.
Notamment,
ouais,
j'ai vu ça.
Exactement, ouais. Donc ça, c'est vrai que c'est une expérience particulière, parce que c'est les rois du travail bien fait, donc on est dans la précision, on est dans des choses très luxueuses, avec des matières très luxueuses. Et donc, ça doit avoir un rapport, en effet.
Mais ça se voit hein, dans le livre, les petits détails sur les costumes que vous avez pu faire dans le livre de Mu, notamment pour les robes des femmes.
Oui, mais parce que ça, c'est comme une obsession. Vous savez, quand vous êtes au téléphone, vous faites des petits traits, des petits crabouillis, des petites choses qui se répètent, vous savez pas trop ce que ça représente. Et bien, en fait, c'est vrai que quand on est dans des petits supports, enfin en tout cas des vêtements en dessin, ça permet d'aller loin en fait dans l'obsession du motif et parfois... on s'arrête plus, quoi, parce que c'est tellement plaisant, on est complètement déconnecté du monde et ça crée une vraie bulle de chercher ça. Et c'est vraiment, enfin moi, ça me fait
plaisir.
Kiffer.
Voilà. Muriel, on vous retrouve donc juste à côté, donc sur la place d'Armes, ici à l'île Jourdain, avec vos nombreux ouvrages, dont le livre de Mu, dont on vient de parler, sur le mariage. Et Mickaël aussi, on vous retrouve ici pour vous parler, pour discuter avec les... Il y a plein d'enfants qui vous attendent devant vos stands, donc ça va être bien. Et notamment, donc, je rappelle, Préhistorique avec Hervé Parvier, aux éditions Tourbillon. Donc voilà, merci, bonne journée à vous, avec plein de dédicaces et plein de gens avec qui vous allez pouvoir discuter.
Merci beaucoup.
Bonne journée.
Bonne journée à vous, merci.
Et on se fait une petite pause musicale avec le pudding à l'arsenic tiré de la BD, enfin, du dessin animé tiré lui-même de la BD Astérix et Obélix.
Pâtisserie empoisonnée, les beignets mortels.
Oui.
Macaron foudroyant.
Pas mal.
Tarte au venin de vipère.
Classique.
Clafoutis au curare.
Bon. Oh,
le pudding à l'arsenic.
Oh oui.
Dans un grand bol de strychnine, délayé de la morphine, fait tiédir à la casserole un bon verre de pétrole. Oh, je vais en mettre deux. Quelques gouttes de ciguë, de la bave de sangsue, un scorpion coupé très fin.
Et un peu de poivre en grain.
Non.
Hein?
Émiettez votre arsenic dans un verre de narcotique, deux cuillères de purgatif, on fait bouillir à feu vif. Oh, je vais en mettre trois. Dans un petit plat à part, piétir du sang de lézard, la valeur d'un dé à coudre.
Et un peu de sucre en poudre.
Non.
Hein?
Bon. Vous versez la mort au rat dans du venin de cobra pour adoucir le mélange. Pressez trois quartiers d'orange. Oh, je vais en mettre un seul. Décoré de fruits confits, moisis dans du verre de gris, tant que votre pain est molle.
Et un peu de vitriol.
Non. Oui.
Ah, je savais bien que ça serait bon. Le pudding à l'arsenic nous permet ce pronostic. Demain sur les bords du Nil, que mangeront les crocodiles? Des
Gaulois.
Yeah. Et on reçoit donc tout de suite Émilie Michaud, bonjour.
Bonjour.
Et nous avons aussi Nadine Chirol, bonjour.
Bonjour.
Alors, Nadine... aujourd'hui, place à la bande dessinée, vous allez présenter deux de vos livres, notamment Mémoire d'un orgue et Rebond. Quant à Émilie Michaud, voilà, vous avez beaucoup de titres, mais dans les derniers, on peut notamment parler de Un jour un hérisson que vous avez créé avec Oriane Lallemand.
Oui.
Ou encore La toute petite fleur de printemps avec Zemanel chez Flammarion.
Tout
voilà,
à fait.
Ça c'est les derniers.
Ouais.
Voilà. Non, c'est bon. c'est bon. Donc, Nadine, c'est ce que je venais de dire. Vous avez deux actus. Donc, Mémoire d'un orgue et Rebond, qui sont deux univers très différents, même si graphiquement, il y a des choses qui peuvent se rapprocher. Mémoire d'un orgue, donc, comme son nom l'indique, c'est une bande dessinée sur l'histoire d'un orgue. Mais est-ce que vous pourriez nous dire quel était cet orgue? Qu'est-ce qu'il avait de particulier? Pourquoi vous aviez voulu en parler de cet orgue-là?
Eh ben, le point commun entre ces deux livres, c'est que les deux sont basés sur des événements réels. Donc, l'orgue est réel, il existe, et il a été créé en 1768, il vient d'Espagne. Pour vous donner une idée, il est plus le Claque de Triomphe. Mm-hmm. Et notamment, il a connu l'invasion napoléonienne en Espagne, il lui est arrivé plein de choses. Et,
oui, c'est assez romanesque, hein, il a une histoire folle, cet orgue.
Complètement, c'est une des choses qui m'a donné envie d'en parler, c'est que... c'est très peu connu, ce genre d'histoire, surtout que dans son cas, au final, il est arrivé jusqu'en France, et maintenant, c'est le seul du genre en France. Il n'est pas très loin d'ici, d'ailleurs, il est à Fresnes, à l'église Saint-Éloi, donc au sud de Paris, pour ceux qui peuvent y aller, et il joue à nouveau. Et l'objectif de la BD, c'était en collaboration avec l'Art de la Fugue, le fonds de dotation qui s'occupe de l'orgue, justement, et qui sert d'éditeur à la BD. Ça permet de faire découvrir l'orgue à des gens qui n'en auraient pas forcément entendu parler, leur donner envie d'aller le voir, d'aller l'écouter, puisque les tuyaux sont d'époque, pour la plupart, donc la musique est vraiment très très proche du registre de l'époque.
Est-ce que vous pouvez nous dire d'où il vient particulièrement? Il fait un périple jusqu'en France.
Oui, il vient d'un petit village dans une campagne de Castille en Espagne, de l'église qui s'appelle Buenafuente del Sistal, d'où le nom qu'il a gardé.
Et c'est un peu particulier parce qu'il était joué par des... Par qui il était joué? Enfin, est-ce que ça se dit d'ailleurs joué? C'est peut-être pas français ce que je viens de dire. Qui pratiquait cet orgue?
Alors, malheureusement, comme je ne parle pas espagnol, je prononce ça probablement très mal.
Non, mais je veux dire, c'était une communauté de religieuses.
Oui, dans le temps, ils participaient forcément à la liturgie. Donc, c'était essentiellement des chants religieux, mais aussi, quand elles avaient du temps libre, la communauté de sœurs qui habitaient dans ce couvent pouvait jouer aussi quelques musiques profanes, juste voilà, pour danser dessus avec d'autres instruments, juste pour passer du temps à animer un peu leur journée. Oui, c'était essentiellement des sœurs qui en jouaient, et notamment il y en a une dont on sait qu'elle a existé parce que c'est écrit sur l'orgue. C'était la première organiste qui s'appelait Maria, et elle est du coup dans la BD, forcément.
Oui, c'est le personnage principal, avec l'orgue, bien évidemment.
Oui, du moins dans un premier temps, parce que l'histoire s'étend sur 250 ans.
Oui, donc elle ne peut pas vivre 250 ans, on est d'accord.
Et non, et c'est un peu la première tragédie que vit l'orgue, c'est que forcément il lui survit, et lui qui a connu que ce couvent depuis qu'il a été créé, ça le perturbe de voir que la personne qui lui permet de faire de la musique n'est plus là, et se fait remplacer par celle qu'elle a formée. Et donc c'est sa première expérience de la mort, avant que justement ne débarque Napoléon et que ça devienne encore pire, parce que forcément le couvent est attaqué, les sœurs heureusement peuvent prendre la fuite et se cacher dans les grottes du Tage, mais l'orgue est quand même livré à lui-même.
Et il se passe des choses, on va pas tout dire bien évidemment, parce qu'autrement, oui, si on divulgâche les gens qui vont vouloir lire cet album, mais en tout cas on peut dire que c'est une vie d'orgue assez particulière qui vous permet de raconter aussi la musique, l'histoire. Donc ça, c'est cet orgue-là, c'est un prétexte aussi à parler de beaucoup de choses, de ces religieuses aussi qui vivent ensemble.
Oui, et il y a aussi un parti pris de partir justement de cet héritage qu'on a des guerres napoléoniennes, et qu'est-ce qu'on en fait, et comment est-ce qu'on peut penser nos rapports avec nos voisins autrement que par la guerre et l'invasion, puisque l'orgue est plus ou moins un orphelin de guerre, de fait. Donc j'ai un peu pris cet angle pour l'humaniser, parce que lui, forcément, quand il découvre que c'est des Français qui s'intéressent à lui pour l'acheter, ça, il n'est pas très emballé, ses expériences passées. Mais voilà, après, oui, je ne vais pas tout raconter.
Non,
mais,
non, bien sûr. Et donc, on est un peu loin, Émilie Michaud, on est un peu loin de ce que vous faites, vous, puisque les livres, ce sont des livres destinés à la jeunesse.
Oui, tout à fait.
Ah
oui.
Pourquoi c'est c'est un public que vous appréciez vraiment, ce public-là?
Je suis professeure des écoles.
Voilà. Est-ce que vous êtes là aussi, vous êtes la régionale du coin, vous n'êtes pas très loin d'ici?
J'habite à Poitiers.
D'accord.
Ouais, ouais. Et j'enseigne dans une classe de CE2. Mm-hmm. Je suis passée aussi en maternelle. Mm-hmm. Voilà. Donc c'est vrai que mes élèves m'inspirent beaucoup, mes enfants m'inspirent beaucoup aussi. Puis lors de mes études aussi, j'ai fait des études de lettres modernes, et dans ces études j'avais une option littérature jeunesse. Enfin, j'ai toujours été attirée par la littérature jeunesse et par le dessin, donc ces deux passions en fait se sont réunies, et voilà, je dessine pour les enfants.
Ça vous laisse du temps, vous avez le temps, parce que professeur des écoles, moi qui le fus aussi, finalement c'est assez prenant, donc faut jongler, c'est pas simple de dessiner.
Oui, c'est pas simple. Je travaille à 75% dans ma classe. Ça me laisse une journée entière au calme à la maison pour dessiner. Et j'ai aussi les mercredis après-midi, les week-ends, les petites vacances. Bon, c'est un petit peu sport hein, quand même parfois. Mais voilà, c'est en attendant d'obtenir peut-être un 50%. Voilà, ça, c'est mon objectif final. 50% éducation nationale, 50% illustratrice.
Voilà. Et du coup, vous êtes toujours accompagné de scénaristes, oui. D'ailleurs plutôt des femmes.
Alors Zemanel est un homme.
Pardon, je ne savais pas. Je me trompe alors. Mais sur quel support vous travaillez pour faire vos planches, vos pages? Comment vous le dessinez? C'est de l'aquarelle?
De l'aquarelle, de l'encre de Chine. Alors, je dessine d'abord au crayon à papier, ensuite j'encre avec l'encre de Chine, et en dernier, la couleur à l'aquarelle. Voilà, quelques petites touches de crayon de couleur par-ci, par-là, pour rehausser. Voilà.
Et donc, dans les derniers livres que vous avez pu créer, il y a La Petite Fleur de Printemps, qui fait partie d'une... ce qu'on pourrait appeler la collection Père Castor chez Flammarion, mais ouais. Combien y a-t-il de livres? Parce que j'ai l'impression que c'est comme une espèce de petite collection, une petite série en elle-même.
Alors c'est une petite série, mais à l'origine ça ne devait pas l'être. Flammarion m'a contacté pour faire le livre de Noël, donc c'était en 2022. Et ce livre de Noël a eu beaucoup de succès. Donc c'est Noël aux quatre vents. Et ils nous ont proposé ensuite avec l'auteur de faire une série basée sur les saisons. Noël aux quatre vents étant l'hiver, on a remonté ensuite les saisons, on a fait les choses à l'envers. On a ensuite sorti l'automne, puis l'été, et le dernier vient de sortir, le printemps. Voilà.
Et c'est quoi alors la philosophie de cette petite collection, de cette petite série?
C'est simplement une petite histoire réconfortante, familiale, de quatre oursons qui sont un peu fripons. Tente l'aventure dans la nature et voilà, ce sont toujours des petites histoires à lire le soir avant de dormir avec les enfants pour pas faire de beaux rêves quoi. C'est une petite histoire tendre autour de la famille.
Et donc ça veut dire que La Petite Fleur de Printemps se déroule donc au printemps, mais est-ce que vous pourriez donner deux, trois phrases pour nous expliquer de quoi parle? Il y a quatre oursons.
Alors oui, il y a quatre oursons qui sortent de la maison, vont se promener et en fait aperçoivent un petit arbuste dans lequel il y a une fleur. Ils la trouvent magnifique et se demandent en quel fruit va-t-elle se changer. Et au fur et à mesure, le temps qui passe, la petite fleur tombe. Il n'y a plus de fleurs dans l'arbuste. Les oursons sont très déçus et se disent mais on ne saura jamais ce que c'est cette petite fleur. Et un matin, en fait, l'arbuste est plein de fleurs. En fait, c'était pas la dernière fleur, mais c'était la première fleur de cet arbre. Voilà.
On n'en dit pas plus parce qu'il faut aussi laisser découvrir, comme pour Nadine, au lecteur. On parlera donc rapidement de Un jour un hérisson aux éditions Didier Jeunesse, mais le temps nous est déjà compté et il va falloir que vous alliez prendre place pour discuter donc avec vos lecteurs qui sont venus vous voir, discuter, pouvoir faire des dédicaces. Donc je rappelle rapidement le nom de vos albums, dont on n'a pas eu le temps de parler, de Rebond, qui est un album sur un tennisman qui fait du handisport, pardon. C'est ça.
Ben, pas dès le premier tome, c'est surtout sur l'histoire de son accident et la rééducation. D'accord. Dans le premier tome, et son premier voyage en Inde. Donc c'est vraiment le tout début, mais on va vers le tennis fauteuil, effectivement. D'accord. Et c'est le début. Et je vais signaler que par rapport à Mémoire d'un orgue, il y a aussi une exposition à la MJC des planches originales. Okay. Donc n'hésitez pas à aller voir.
C'est pas très loin d'ici, en effet. Rebond, c'est sous forme d'un manga. Donc ici, Nadine, vous présentez donc Rebond et Mémoire d'un orgue. Et Émilie, vous, beaucoup de livres, mais notamment les deux derniers, Un jour un hérisson aux éditions Didier Jeunesse et La Petite Fleur de Printemps, Père Castor, Flammarion. Merci à vous deux.
Merci beaucoup.
Passez à bonne journée.
Merci.
Bonne journée également.
Et nous sommes avec
Mathieu Siam. Bonjour Mathieu.
Et bonjour à vous.
Alors Mathieu, c'est un peu particulier. Vous êtes ici à place à la bande dessinée ici à l'Île-Jourdain. Et c'est un peu particulier parce que vous avez notamment créé l'affiche du festival.
Oui, j'ai eu cet honneur. On m'a demandé de faire l'affiche. Et ben j'ai dit oui avec grand plaisir. Il y avait une contrainte imposée. C'était qu'il fallait avoir le viaduc. Mais c'est la seule contrainte que j'avais. Et après, des fois, quand on fait des affiches de salon, il faut qu'il y ait 1000 personnages de BD, Merci plus l'ami, Tintin.
Là, ça va.
Enfin, surtout pas Tintin d'ailleurs, parce que Moulin, ça arrive, grand pas. Et moi, j'ai voulu créer ce personnage. Donc, c'est un petit garçon avec un livre sous le bras, parce que c'est pareil, il faut des symboles. Le symbole du livre pour un salon du livre, c'est pas mal, voilà. Et je l'ai mis sur des géchasses qui traversent, qui marchent dans l'eau. Voilà. Et j'ai essayé de chercher la posture la plus nonchalante possible, la plus ordinaire possible, c'est-à-dire qu'on va à l'école en traversant la rivière en échasse, et c'est normal. Voilà,
c'est quoi la rivière ici d'ailleurs?
Ah ouais, c'est la Vienne, je pense.
C'est la Vienne?
La Gartempe, c'est possible.
Ah, ça se peut, mais on ne sait pas trop.
mince, c'était la question piège, Damien. Merci, Damien.
Ah non, mais c'est que j'ai eu un doute d'un seul coup, je ne voulais pas dire de bêtises. Et Mathieu, donc, cette affiche, comment vous l'avez créée? Quelle votre technique graphique? Vous utilisez quoi pour faire une affiche comme celle-ci?
Alors c'est bon, globalement moi je fais du multitechnique, classique au départ, crayonné, ancrage, ça c'est assez convenu. Et après sur la mise en couleur, j'utilise j'ai utilisé des bleus de cyanotype. En fait j'ai fait toute une gamme de cyanotype. Alors c'est le cyanotype, c'est un truc un peu étrange, on mélange un peu d'azote machin ensuite on applique, c'est marron, on le laisse sécher 2 heures, on le ressort, on le met au soleil, ça devient bleu, mais faut pas trop. Voilà, on le rince, et donc j'ai des plaques comme ça de bleu que j'aime bien, que je réutilise pour faire mes affiches. Et puis il y a un niveau de lavis, un lavis qui est fait au brou de noix, donc c'est quelque chose qui est coloré, mais en même temps avec le bleu ça fonctionne. Et puis en général je mets du orange pour que ça tourne sur une chromatique qui fonctionne bien, et une grosse tache au milieu. J'aime les taches, je suis un tachiste. Jean-Philippe Perrault m'avait dit je suis un tachiste, mais c'est dans le beau terme du monde.
C'est vrai. C'est un peu aussi votre marque de fabrique, les empreintes que vous... Dans ce sens-là, vous avez l'habitude en plus d'aller dans les classes, dans les écoles, pour travailler autour des empreintes.
Oui, tout à fait. Moi, les empreintes, j'ai un livre qui s'appelle Empreintes aux éditions Commune Orange, que je vous invite à découvrir. Effectivement, très rapidement, je me suis rendu compte que vous avez plein de virtuoses du dessin qui sont ici. Des gens qui, tout petits, étaient à l'aise avec le crayon, etc. Ça n'a pas été mon cas. Comme il faut trouver une singularité dans ce métier, sinon on arrive à des productions qui sont aussi... très homogènes et puis finalement qui perdent de leur essence. Moi, mon truc, ça a été de faire des tâches, chercher des empreintes justement, ou des grands traits, essayer de travailler l'erreur. Et c'est comme ça que je travaille aujourd'hui. C'est on essaye des choses, on pose. Mais je me considère pas spécialement comme un artisan, en fait. Je lance des machins, beaucoup de déchets, et puis de temps en temps, y a un truc qui fonctionne. Et donc voilà, c'est assez laborieux comme travail.
Ah oui, c'est surprenant.
C'est besogneux, c'est besogneux, voilà, c'est ça.
C'est surprenant parce que moi j'aurais dit justement l'inverse, que vous étiez plutôt un artisan, ce que vous faites vraiment avec les mains, vraiment à l'ancienne, et vous cherchez. Donc
oui.
Moi, comme Jean-Philippe, je vous qualifierais d'artisan plutôt. En plus de cette affiche que l'on peut retrouver ici, il y a deux moments très importants ici à l'Île-Jourdain. Il y a une exposition et un spectacle. Alors l'exposition, c'est sur Maud Lewis, c'est ça?
Alors oui, ça c'est... Bon, moi je l'ai pas vu, c'est fait par les organisateurs. Je crois que c'est une fausse Maud Lewis. C'est à la façon de Maud Lewis, donc j'ai très hâte de découvrir ce travail-là. C'est une maison qui normalement est peinte. Maud Lewis étant une peintre canadienne qui, au début du siècle, jusqu'en 1970, ça démarre, elle peignait de façon assez naïve, et elle a rencontré un succès un peu posthume. Mais sur ce... Voilà, ils ont reconstitué... une fausse Maud Lewis à l'Île-Jourdain, et nous on fera un spectacle sur le vrai Maud Lewis, qui sera avec donc on a un musicien professionnel qui est Ben Leveilleur, qui va jouer en direct, et puis il y aura Jean-Luc Terrois qui est un poète et conteur, et je serai accompagné de Marine Chauvet qui est une une peintre. Ça, j'avais très envie en fait de dessiner. Alors, au départ, c'était Emmeline Groslot qui a pas pu être là aujourd'hui. Et donc, j'avais envie de travailler avec Marine. Marine, ça change un peu. Ça change du champ de la BD. On est sur quelqu'un qui fait des tableaux, de la peinture, des grands formats. Et d'un coup, je la sors de sa zone de confort. Et je lui dis, viens, on va faire de la BD. On va faire un spectacle dessiné. Et je suis super content de ça. Je me suis là-dedans.
Oui, parce que ce qu'il faut dire, et vous étiez là l'année dernière, c'est que Maud Lewis, c'est une bande dessinée que vous avez créée donc avec Emmeline Groslot aux éditions
War Room.
Et donc là, donc l'exposition, est-ce que la maison elle est pas loin d'ici, hein, il me semble, de là.
Tout n'est peut-être pas loin, Lisandin.
Non, d'ici. Il suffit de venir et si vous savez pas, vous nous demandez. Et le spectacle, est-ce que vous pourriez nous dire les horaires du spectacle?
Oui, 14 et 16, et ça dure 30 minutes.
14 et 16, c'est un spectacle tout public?
Tout public. Ah bon, évidemment, l'enfant de... Le nouveau-né jusqu'à 5-6 ans, ça va être long, pour eux comme pour nous. Oui. Mais après, oui, c'est bon, il y a de la poésie et tout.
Ouais, ça bouge.
Disons qu'il y a une performance quoi, de musicale, déjà rien que ça, de voir de la musique se faire en direct. Il y a un compteur aussi, c'est quelqu'un qui est debout, qui est engageant.
C'est un spectacle nouveau, c'est la première fois que vous allez le jouer?
Non, alors c'est la première fois avec Marine, mais c'est un spectacle qu'on a déjà fait avec Emmeline. On l'a joué dans le coin plusieurs fois. Mais évidemment, à chaque fois, c'est une nouveauté. Le fait de faire à quatre mains avec Marine, c'est une nouveauté. Et puis là, on l'a pas beaucoup répété, donc on est aussi un peu on l'a répété, mais bon, les agendas sont compliqués au mois de juin.
Hier vous étiez très loin de Lisjourdain.
Alors j'ai fait 2 jours à Paris, c'était
et
très bien.
Pourquoi vous étiez à Paris d'ailleurs, Mathieu?
Alors parce qu'il y a un livre qui s'appelle L'effet papillon, carnet en territoire zéro chômeur longue durée, et c'est une association qui travaille pour accompagner les personnes qui sont en recherche d'emploi depuis longtemps, et donc c'est une expérimentation qui permet à ces gens-là de retrouver un boulot à temps choisi et sur un travail adapté. Et cette bande dessinée s'appuie sur une expérience que j'ai vécue pendant 1 an d'immersion avec eux. Et hier, c'était l'AG à Paris. Donc j'ai été présenter le livre et il y avait quelques personnes influentes, on va dire, sénatrices, députées et également des partenaires. J'ai découvert... assez étonnamment, bon, il y avait des partenaires assez attendus, on va dire, parce qu'ils sont genre à TD Carmonde ou choses comme ça. Mais il y avait aussi la Fondation de la Française des Jeux.
D'accord.
Qui est là. Non, mais c'est ça, il faut trouver de l'argent.
Il faut trouver de l'argent.
Et il y a des gens qui participent. Et ça m'a fait super plaisir. Juste pour l'anecdote, il y avait un monsieur qui s'appelle Thomas, qu'on m'a présenté. Et ce garçon, il était tout jeune, hein. Vraiment, vraiment jeune, hein. Je dirais une trentaine. Voilà. Et ce garçon il a monté une start-up, il a fait de l'argent. Et sa start-up, elle est stabilisée, il travaille dans le médical et tout. Il a eu 100 000 euros de bénéfices, hein. Là, c'est que des bénéfices. Et il en a donné, avec son équipe, la moitié au territoire zéro chômeur.
C'est génial, ça.
C'est magnifique, hein.
Alors, L'effet papillon, donc, c'est une bande dessinée qui est publiée par Desronds dans l'eau.
Oui, tout à fait.
Donc, vous venez d'expliquer, c'est un dispositif. C'est des gens qui sont assez loin du travail et c'est pour les remettre en scène, mais ils sont vraiment salariés, ils sont pas bénévoles, hein, font vraiment un travail.
C'est un CDI avec un contrat de travail et voilà. Après, effectivement, ce qui se passe, c'est que ce sont pour certains, hein, bien sûr, c'est des gens qui ne sont pas adaptés au marché du travail, parce qu'il y a du handicap, parce qu'il y a des caractères aussi, tout simplement, et qui, lorsqu'ils sont ils vont travailler chez un employeur, ça fonctionne pas. Là, l'idée, c'est que ils viennent et ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur demande, c'est de bosser, c'est de venir, voilà. Mais après, il y a une forme d'indulgence, parce que le principe, c'est qu'une personne qui est inactive, le coût de l'inactivité est plus important que le coût du travail. C'est-à-dire que payer quelqu'un au SMIG, finalement, ça revient moins cher avec tous les effets de bord que quelqu'un à qui on va donner des prestats.
Et puis, c'est important psychologiquement de retravailler. Socialement, c'est important aussi.
Exactement. Exactement. Il y a des plus-values, alors ce qu'ils appellent des biens.
Des bénéfices.
Des bénéfices extérieurs. Il y a un nom spécifique, je ne l'ai plus en nom, mais ils le calculent maintenant. Il y a un observatoire qui permet de savoir qu'est-ce qui, au niveau du bien-être. Et puis, on dit aussi un chômeur ou une chômeuse, c'est quelqu'un qui a des enfants, et donc s'il a des enfants, et c'est un autre modèle qui est donné.
Alors Mathieu, le plus simple, c'est que comme vous avez l'habitude de présenter ce livre, On laissera les gens venir discuter avec vous.
Mais oui, viendez.
Discuter. Il y a une autre chose, le territoire zéro chômeur de longue durée. Il y en a à Montmorillon, hein, on est bien d'accord.
Non, il n'y en a pas à Montmorillon. En fait, ils ont choisi pour un autre, ils ont opté pour un autre système d'insertion.
D'accord.
Mais tout ça n'est pas très éloigné. D'accord.
Donc voilà. Ça veut dire que vous allez aussi présenter votre livre ici.
À Montmorillon, vendredi 17h, il y a l'inauguration de l'exposition.
Ah,
magnifique exposition faite par Pierre-Henri Laurent, Pierre-Laurent Dorès, donc, qui est commissaire d'exposition et puis qui fait.
À la MJC ?
Elle est à la MJC, je crois. Elle n'est pas à la MJC, elle est à côté du musée de la machine à écrire.
D'accord.
Sur les hauteurs, voilà. Mais à la MJC, on présentera la conférence du douanier Rousseau. Et ça sera dimanche, l'après-midi.
En attendant, donc, on vous retrouve sur ici, à place d'armes pour place à la bande dessinée.
Oui.
On rappelle donc qu'il y a une maison Maud Lewis à venir visiter.
Oui.
Et un spectacle à 14h et 16h.
Tout à fait.
Et le lieu, c'est où, s'il vous plaît?
C'est à la MJC.
C'est à la MJC.
C'est à pied, c'est pouf, il suffit de rouler.
Il suffit de. Tout en pente ici, c'est vrai. Merci beaucoup, Mathieu.
Allez, merci.
Bonne journée.
Bonne journée.
Et tout de suite, on fait une petite pause musicale avec Queen de Flash. Flash de Queen. Et voilà, nous sommes de retour pour Place à la BD. Nous reprenons nos interviews avec toi, Damien.
Et nous accueillons Béatrice Guy, bonjour.
Bonjour.
Alors Béatrice, c'est un peu particulier parce que les habitantes et les habitants de l'île Jourdain vous connaissent. Mais pourquoi ils vous connaissent bien particulièrement, ces habitants ici à l'île Jourdain?
Alors, ici à l'île Jourdain, je suis arrivée en 1987 et on a racheté avec mon mari une pharmacie. Et donc, on était pharmacien à l'île Jourdain pendant 35 ans.
Ça veut dire que c'est terminé. Vous êtes.
Maintenant, c'est terminé.
Et vous pouvez vous consacrer au livre que vous créez. Et c'est pour ça que vous êtes là ici aujourd'hui.
Voilà. Donc, je pense que inconsciemment, le fait d'être à l'île Jourdain pendant 30 ans a laissé germer en moi la Vienne, parce que la Vienne à l'île Jourdain est quand même très présente, avec ses barrages, sa plage, son viaduc, les ponts, les randonnées. Voilà. Et bah, ça me paraissait évident d'aller retrouver sa source.
Et alors, ça veut dire que comment il est entré dans votre vie, le dessin ou même l'aquarelle ? Ça fait longtemps ?
L'aquarelle, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. J'avais pris quelques cours avant de venir à Les Jourdains, un petit peu au début aussi. Et puis, j'avais laissé tomber parce que le travail. Et ben, à la retraite, effectivement, il fallait un petit peu s'occuper. Donc, j'avais repris avec les champignons.
D'accord, ça c'est votre premier livre. Voilà. Et ça tombait bien parce que finalement les champignons et la pharmacie, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement connecté.
C'est ça, voilà. Et donc j'avais illustré ma classification des champignons sans spécialement penser faire un livre. Et c'est Catherine à la presse de Les Jourdains qui m'a dit mais fais un livre et voilà.
Et donc ce livre, il date de 2022 et voilà. Il est édité à La Geste,
oui,
qui est une maison d'édition régionale.
Régionale, c'est ça.
Voilà.
Et La Geste m'a suivi et m'a dit, mais allez, maintenant, le prochain.
Et alors, vous êtes dit, comme vous étiez juste en train de le lire avant, que la Vienne était très présente à l'île Jourdain. Et donc, c'est votre nouveau livre qui s'appelle donc La Vienne, rive droite, rive gauche, là aussi édité par La Geste.
Édité par La Geste également, aussi.
Et donc... comment ça s'est déroulé? Vous avez fait un périple?
Oui, oui. Et il faut que j'aille sur place.
D'accord.
Pour trouver l'inspiration, pour trouver les endroits qui me plaisent, qui me parlent. Donc, je pars. Je suis allée à la source d'abord. J'ai commencé par la source, sinon je ne pouvais pas démarrer.
Et donc, pendant plusieurs jours, plusieurs semaines?
Non, j'ai fait des allers-retours.
Ah, d'accord.
Oui. Il y a trop de choses. Je prépare mon itinéraire avant de partir, en regardant bien ce que je peux. Et après, je déambule le long de la Vienne.
D'accord. Mais vous avez fait ça seule ?
Oui, oui. Parfois avec mon mari dans certains endroits, mais le plus souvent seule, oui.
D'accord. Et alors, ça veut dire que vous rencontrez des gens qui vous expliquent ou c'est vraiment toute seule ? C'est après donc que vous faites la documentation.
Oui, voilà. Oui. Non, je suis toute seule dans ma bulle et je descends toutes les rues qui descendent en bord de rivière. Parfois, je tombe sur des voilà, c'est bon. Mais non, je suis toute seule, oui.
Alors, comment ça se passe ? Vous arrivez, vous sortez vos aquarelles
c'est
des photos ?
Je prends énormément de photos.
D'accord.
Je prends énormément de photos de ce qui me plaît, enfin, de ce que je trouve joli, sans particulièrement savoir.
D'accord.
Et après, en rentrant, j'aquarelle ce qui me parle le plus. Et j'essaie de trouver l'histoire, les randonnées dans le coin.
Parce que c'est un album, quand on le regarde, un livre qui est très riche, parce qu'il y a l'histoire de la Vienne, et puis des anecdotes.
Oui.
Il y a beaucoup de photos aussi, parce qu'on voit, vous prenez en photo parfois des plaques, des noms de lieux.
Oui, je veux qu'il soit assez... j'ai voulu qu'il soit assez... visuellement, qu'on sache tout de suite où on est et ce qu'on va voir. Voilà. Si c'est un monument historique, si c'est...
Donc c'est après avoir vu que vous documentez. Et c'est quoi vos sources de documentation ?
Alors c'est beaucoup les archives départementales des départements. Et puis Internet. Et des livres anciens.
D'accord.
Des vieux livres de géographie que j'aime bien parce qu'il y a une autre vision des choses. Et puis, oui.
En effet, il y a beaucoup d'informations historiques, géographiques et même hydrographiques.
Oui,
ça, c'est ça. Vous êtes devenu spécialiste de l'hydrographie.
Oh non. Non, mais bon, en parlant des ruisseaux, et ici, c'est vrai qu'on est quand même bercé par les barrages. En crue, ils fonctionnent beaucoup. Il y a un mouvement constant de l'eau, donc on est sensible au mouvement de l'eau, de la Vienne.
De la Vienne.
Et c'est magique.
C'est magique, d'accord. Donc, ici. À la bande dessinée. Vous avez donc vos deux livres.
Oui.
Donc les gens peuvent venir vous voir, discuter avec vous.
Bien
ça
sûr.
Vous aimez bien aussi.
Bien sûr, oui.
Les gens pouvoir discuter avec vous, pouvoir acheter le livre.
Oui.
Donc je vous redonne les informations sur ces deux livres. Donc il y a Reconnaître les champignons et La Vienne, rive droite, rive gauche, à La Geste. Merci Béatrice Guy.
Merci à vous.
Bonne journée.
D'avoir invité.
Bonne journée.
Merci, bonne journée.
Bonjour Amédée et Quentin Amand. Voilà deux nouveaux auteurs avec nous qui sont présents à Place de la Bande Dessinée aujourd'hui.
Bonjour.
Bonjour.
Quentin et Amédée, vous êtes là aussi pas très loin de l'île Jourdain. Vous êtes basé à quel endroit? Où est-ce que vous vous situez?
On habite à Angoulême. On a fait les Beaux-Arts. On a fini il y a 3 ans.
Ah, et là, vous êtes tout jeune.
Pour l'instant, on vieillit tout doucement. Non, mais pour l'instant, on habite encore là-bas et on travaille là-bas.
D'accord. Est-ce que ça veut dire que c'est aux Beaux-Arts que vous êtes rencontrés tous les deux?
Oui, c'est ça. Moi, je suis arrivé. Donc, j'ai fait les 2 dernières années. Équivalent master, et j'ai rencontré Quentin qui était déjà depuis un certain temps.
3 ans, oui.
Et voilà, ouais, c'est ça.
Ça veut dire que tout de suite, ça a matché pour créer des fanzines ensemble, si j'ai bien vu ça?
Oui, alors dans un premier temps, des fanzines collectifs, avec chacun avait sa petite histoire à l'intérieur d'un fanzine ou de différents projets. Et puis ensuite, je crois peut-être en 2e année, on a commencé à vraiment faire un projet à 4 mains. Donc d'abord sur une histoire de 3 pages et puis ensuite,
d'accord,
c'est une autre histoire.
Est-ce qu'on peut rappeler pour le public ce que c'est qu'un fanzine?
C'est la contraction en fait de fan et de magazine. Donc à la base un magazine de fan, donc plutôt d'amateurs, c'est-à-dire des objets... des petits livres qui sont imprimés avec les moyens du bord et souvent pliés, imprimés, c'est ça,
agrafés par
à la main en général. Après, ça peut être plus ou moins professionnel. Il y a toutes sortes de fanzines et sur toutes les thématiques.
Et donc là, ça veut dire que vous, ensemble, vous avez à ce moment-là, vous avez commencé à créer des histoires ensemble dans ces fanzines-là.
On a commencé par cette histoire courte qu'on avait faite à la base pour le concours Jeunes Talents d'Angoulême.
Ah, d'accord.
Où du coup on s'est déjà réparti le travail en dessinant à deux et en écrivant à deux. Et après Amédée avait lancé un fanzine collectif en parallèle et du coup il m'avait invité à faire une histoire dedans. Et voilà, ça s'est fait un peu comme ça.
Et aujourd'hui, à place de la bande dessinée, les gens peuvent venir vous voir pour un album que vous avez sorti qui s'appelle Constellation Potagère.
Ouais, c'est exactement ça. C'est un album qu'on a sorti là il y a un mois à peu près.
Oui, c'est ça, il est tout jeune.
Ouais, tout récent, qu'on a du coup auto-édité sous le nom des éditions Bidule. C'est le nom du collectif qu'on a choisi. Et voilà, donc là on essaye de faire quelques salons pour présenter notre bouquin.
Alors c'est assez compliqué à m'aider à résumer cet album parce que c'est complètement fou, hein, ça on peut le dire, c'est assez drôle. Est-ce que il y a beaucoup de personnages et est-ce qu'on pourrait résumer ainsi, il y a des navets, c'est le bordel.
Mais c'est ça, ouais.
Mais c'est ça.
Bordel organisé, on va dire.
Ouais, quand même, parce que c'est quand même écrit. C'est un peu désagréable comment je l'ai présenté, mais c'est quand même écrit, c'est quand même dessiné, c'est quand même réfléchi. Quand même, d'accord. Mais alors, ça veut dire que c'est qui Chuck, c'est qui Pimpluche, c'est qui Cosmic Louis, c'est qui Jus, c'est qui le professeur Lukovic, c'est qui tous ces personnages-là?
Tu veux qu'on présente tous les personnages?
Non, parce que ça va être un peu long, mais oui. C'est qui tous ces gens-là? Ils ont quoi de particulier? Ils ont quoi en commun?
Au début, on ne sait pas vraiment. Ah. Et puis ensuite...
Ah oui, il ne faut pas trop en dire non plus pour ne pas gâcher, bien évidemment.
En tout cas, au début, ils ont le point commun d'habiter dans la même ville. Mm-hmm. Et après, ils sont amenés à se croiser.
C'est une ville dans laquelle il se passe des événements étranges. Et ça. En fait, petit à petit, quand on lit l'histoire, on comprend en fait ce qu'il lit chacun des personnages. Et voilà.
Donc, et comment vous avez travaillé tous les deux sur cet album? Est-ce que vous avez partagé le dessin, le scénario? Comment ça se passe entre vous?
On a écrit à deux, donc on se réunissait, on échangeait nos idées et puis on découpait page après page ensemble. Et après pour la partie dessin, j'ai fait les crayonnés et Amédée l'ancrage. D'accord. C'est réparti comme ça.
D'accord. Alors là aussi pour le grand public, les crayonnés, ça c'est quoi?
En fait, c'est la partie de... où on prépare les planches, où on dessine d'abord au crayon, tout d'accord. simplement, les pages en entier, avec les textes, etc. Et donc ça, c'est Quentin qui le fait en se basant sur l'étape d'avant, donc le storyboard, où c'est la même chose, les pages déjà écrites, mais
rapidement dessinées.
Rapidement. Ensuite, donc Quentin fait le dessin, mais pour le coup, plus propre et plus défini. Et moi, j'encre, c'est-à-dire je prends de l'encre, une plume, et je repasse ces crayonnés. C'est un peu c'est la méthode traditionnelle en fait dans les comics américains, qui est, en France, ça se fait, mais ça c'est très peu développé. Mais
voilà. Donc vous, c'est vraiment à l'ancienne, c'est vraiment papier, encre, crayon, encre. Et après, la couleur, est-ce que c'est de la couleur directe ou est-ce que c'est à l'ordinateur ?
C'est à l'ordinateur, oui. D'accord. Et puis l'ordinateur entre aussi dans certaines étapes, parfois de retouche sur les crayonnés ou sur l'ancrage.
D'accord. Quand il faut. Ouais, ouais. D'accord. Moi, je suis plus à l'aise en plus petit, donc je crayonne en A4. D'accord. Et Amédée en encre en A3. Du coup, on passe les pages sur ordinateur.
Oui, pour les agrandir.
C'est d'accord. Ça.
D'accord. Donc, Constellation potagère, donc c'est une folie potagère. C'est une histoire absurde assez avec du non-sens. Un peu dans ce qu'on avait l'habitude de lire dans le journal Spirou. Est-ce que ça vient de là aussi un peu ?
En tout cas, c'est une influence commune à tous les deux, ouais. D'accord. C'est sûr qu'on a tous les deux grandi avec ça. Ouais.
Parfois même, je viens de perdre le nom. Ah oui, Luc Romhec, ça ressemble un peu dans ce sens-là. Est-ce que c'est ça ?
Moi, j'aime beaucoup son travail. Ouais, ouais. D'accord. Ça me fait. Ouais, ouais, moi, j'aime bien.
Mais quand je dis que c'est dans... la folie, c'est lisible, hein, ne vous inquiétez pas. Bon. C'est pour quel type de public ? Est-ce que c'est pour un grand public ? Tout le monde peut lire cet album ?
Comme tu l'as dit, un peu notre référence qu'on avait tous les deux en tête, c'est plutôt Spirou, enfin le journal de Spirou et les aventures qui pouvaient y être publiées. Et du coup, maintenant c'est moins le cas, mais à l'époque c'était plutôt des histoires qui étaient pensées pour un grand public. Ça n'existe plus vraiment maintenant, mais quand on lit un Spirou de Franquin, va de la jeunesse mais jusqu'à l'âge adulte. Donc nous, c'est un petit peu comme ça qu'on l'a pensé aussi. Ou aussi dans l'idée de pilote aussi, où c'était jeunesse à partir de, disons, c'est pas pour les 5 ans, 6 ans, mais plutôt 8-10 ans, jusqu'à l'âge qu'on veut ensuite.
Quand je disais que c'était la folie, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup d'humour. Et c'est de l'humour qui est basé sur des jeux de mots, sur des situations, sur des noms de légumes. Est-ce que ça aussi, c'était voulu, ce côté humour très, finalement, très familier à tout le monde, quoi.
Quand tu dis familier, c'est-à-dire...
grand public.
Ah oui. Je pense qu'on a essayé de garder les idées qui nous faisaient rire, nous. Et je pense qu'on aime tous les deux tout ce qui est jeu de mots, situation absurde, et on a essayé de mêler un peu tout ça en construisant notre récit et d'essayer de doser quand même le côté blague par rapport à la trame générale.
D'accord. Et c'est un peu ça qui nous a fait aussi nous rapprocher au début, c'est qu'on avait déjà des sources d'influence communes, même s'il y en a qui diffèrent, mais il y en a qui sont communes. Et puis aussi, on rigole des mêmes choses et du même type d'humour. Donc chacun rajoutait ses petites blagues, ses idées, et ensuite on essayait de construire tout ça et de rendre ça cohérent.
D'accord. Donc cet album qui est sorti il y a quelques mois, le mois dernier, vous avez dit. Donc, il est disponible ici, place de la bande dessinée. Vous pouvez rencontrer les lecteurs, leur expliquer de quoi ça parle un peu mieux que ce que j'ai pu faire.
Pas forcément, on n'arrive pas toujours. Mais...
Constellation potagère, puisqu'il y a des légumes, donc.
Exact.
Donc, Quentin et Amédée, merci d'être venus jusqu'à nous.
Merci à toi, merci à tous les deux.
Et on vous retrouve donc toute la journée ici.
C'est ça,
avec d'autres, peut-être d'autres choses que cet album.
C'est ça, d'autres
des fanzines, des choses
d'autres fanzines, des choses collectives, pas collectives. Il y a Lucie Kiefer aussi qui est venue avec nous d'Angoulême.
D'accord. Voilà. Donc là, il y a trois personnes que vous pouvez venir avec qui vous pouvez venir discuter. Voilà, bonne journée à vous deux.
Pareillement, et puis merci.
À bientôt.
Au revoir.
Bonjour Rémi Farnos.
Bonjour.
Alors, vous êtes auteur de bande dessinée et on vous retrouve ici, place d'armes à place de la bande dessinée. Vous êtes aussi un peu, encore une fois, le régional de l'État, puisque vous n'habitez pas très loin.
Effectivement.
Et vous avez quand même plusieurs albums dans votre carrière. Et notamment, celui qu'on peut retrouver ici, c'est Les Aventuriers de l'Uraka, qui a été édité par les éditions du Lombard.
C'est bien ça.
Alors, cette bande dessinée, Rémi Farnos, elle est un peu particulière parce que c'est une thématique que les gens et les enfants adorent, ce sont les pirates. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce pirate qui est le capitaine Sherman? Il est un peu particulier quand même.
Oui, j'ai bien aimé travailler ce personnage. Ouais,
parce que qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est qui exactement, Sherman ?
Alors, le capitaine Sherman, c'est un pirate qui va pas briller pour le fait de trouver des trésors. C'est pas comme ça qu'il se distingue des autres capitaines. Ouais. Là où il va s'illustrer, par contre, c'est pour remotiver ces bandes de pirates intrépides et sanguinaires qui, eux, rêvent que d'une chose, c'est d'avoir des merveilles bord du bateau et avoir un peu de thunes, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Et donc, à défaut de trouver des trésors, le capitaine Sherman, il est très fort pour les remotiver en racontant des histoires absolument dantesques, quoi. Et ils se font toujours avoir. Ils repartent à l'aventure, toujours pour de nouveaux trésors. Et voilà.
C'est des histoires qu'il invente, c'est des choses qu'il a vécues, c'est un peu tout et n'importe quoi finalement.
Alors, nous, c'est vrai que là dans l'histoire, on prend en cours, au vol, une histoire qui est crédible. Du coup, il raconte la dernière qu'on va suivre en date, c'est celle qu'on va vivre en termes d'épopée. Mais on va dire que le background du personnage, c'est ça, c'est que normalement, au début, ils en parlent beaucoup, quoi, que le personnage, il a tendance à beaucoup raconter, on sait pas trop s'il a fabule ou pas, et généralement, c'est un peu la limite du truc, quoi, c'est qu'on sait pas trop si c'est un bonimenteur, juste un charlatan ou pas.
Peut-être, on ne sait pas trop. Et donc, cette histoire, elle est donc dans la grande tradition de la piraterie. Et donc, elle se situerait au 17e, 18e siècle, à peu près, donc dans ces eaux-là.
Oui, après, moi, je
il n'y a pas de date.
Non, je ne date jamais.
Mais c'est à peu près cette période-là.
Mais c'est à peu près ça, oui, je pense, ouais, dans l'image d'Épinal, en tout cas, voilà. de la piraterie.
Donc, ils sont sur un bateau et ils sont partis à l'aventure, quoi.
C'est ça.
Parce que c'est une aventure.
C'est une grande épopée.
Titre, c'est l'aventure des aventuriers. Et c'est quoi l'Urraca alors du coup ?
Alors l'Urraca c'est une pie en espagnol. Et c'est venu tout simplement parce que la tête de proue du navire, j'avais dessiné une pie. Et je trouvais ça assez cool déjà graphiquement parce que c'est un animal qui est quand même... Bon là pour le coup elle est dorée sur le bateau. Mais c'est un animal quand même tout en noir et blanc. Et puis quand même symboliquement aussi c'est quand même intéressant parce que la pie voleuse pour des pirates c'est pas l'animal le plus royal
on n'a pas l'habitude d'avoir sur la donc c'est la proue c'est devant oui. D'habitude c'est pas le style de personnage qu'on va mettre devant
c'est peur. Pas trop un oiseau qu'on met sur une tête de proue
donc ça c'était donc ces pirates là il y a un équipage avec plusieurs personnages, il y en a qui sont drôles, il y en a qui sont hyper forts, hyper masculins, hyper virils. Donc c'était ça aussi qui vous intéressait, cette espèce de galerie de personnages un peu différents.
Ouais, alors je pense qu'il y a une belle galerie quand même. Il y a tout un panel de caractères assez différents et tout ça. Alors viril, oui, il y en a certains, mais pas beaucoup, pas tant que ça au final.
Eux aussi sont pas spécialement, sont pas non plus très forts pour trouver des trésors.
Non. Ils sont tous un peu bêta, c'est ça qui me plaît aussi chez eux.
Ils sont un peu couillons.
Que j'ai bien aimé. Bah, après ça, c'est vrai que moi, dans mon écriture, généralement, j'aime bien jouer avec des personnages qui ont ces failles-là et qui sont plein de potentiel humoristique en fait. Et c'est leur interaction aussi qui rend la chose savoureuse. Moi, en tant que créateur, quand j'écris les histoires et quand je suis aux commandes du scénario, en tout cas du moins de l'écriture des dialogues. J'aime bien m'amuser, j'aime bien qu'ils me surprennent aussi. Et c'est vrai que dès qu'on a des personnages avec des faiblesses comme ça, c'est un plaisir, c'est un régal de les faire jouer.
Oui, parce qu'on l'a pas dit, c'est aussi un album d'aventure, mais un album d'aventure avec de l'humour, c'est drôle. Hein. On peut dire que c'est grand public. À partir de quel âge on peut lire cet album ?
Alors, moi, ma fille, quand il est sorti, elle avait 8 ans. Et elle l'a fait tourner dans son école. Et 8 ans, ouais, à partir de 8 ans, il n'y a pas de problème pour...
C'est hyper
non,
drôle.
C'est assez, ouais, ouais.
Voilà, ça fonctionne, c'est ce que je veux dire. Donc, ça veut dire que s'il y a des enfants qui viennent aujourd'hui pour regarder, pour discuter avec vous, c'est possible.
Tout à fait, ouais.
Et il y a aussi une autre... Donc, on a expliqué que Capitaine Sherman, il racontait des histoires, mais il y a aussi... quelque chose d'assez important dans ce livre, c'est la lecture, c'est l'apprentissage de la lecture, c'est comment on apprend, et le capitaine Sherman, il apprend la lecture à son équipage, à quelques personnes. Pourquoi c'est important aussi de parler de la lecture ?
Alors, c'est surtout, je pense que ce personnage-là, ce qui me plaisait, moi, c'était de travailler autour de la thématique de la transmission. Et là, bon, là, forcément, un pirate qui sème aussi des pistes pour chasser les trésors et tout ça, pour ses héritiers, il y a un côté comme ça un peu indispensable. En tout cas, c'est un amoureux des arts et des lettres, quoi, clairement. C'est un, C'est un penseur, c'est un philosophe, un humaniste, et la lecture fait partie en fait de tout ce bagage en fait. Et ce qui est assez cool, c'est qu'il donne en fait finalement les codes, ces codes-là, à certains initiés qu'il a choisi trier sur le volet parce qu'ils sentent un potentiel chez eux. Et la lecture, c'est aussi méta en fait, hein, tout simplement. Nous, en tant que lecteur, ou moi en tant qu'écrivain, c'est une façon de faire un bel hommage à cet art que j'apprécie particulièrement, quoi.
Donc ça fonctionne parce que ce pirate, c'est finalement pas un pirate, si on peut le décrire comme ça. C'est pas un vrai pirate. Il est un peu, comme vous l'avez dit, humaniste. Il aime bien les arts, les lettres. C'était pas court à l'époque non plus.
Ouais, ouais, c'est vrai que j'ai bien aimé travailler aussi à contre-pied un peu de l'image qu'on a du capitaine. Là, c'est pas un sanguinaire, c'est vraiment un homme réfléchi et qui aime le partage et la générosité, quoi.
Et donc, les aventuriers de l'Oraka, cet album, il y en a c'est assez étonnant parce que vous avez aussi une actualité qui est toute fraîche, puisqu'il y a un nouvel album qui vient de sortir hier,
oui,
qui s'appelle La rivière de mon grand-père, aux éditions La Joie de lire. Alors, ne soyez pas étonnés si vous ne le trouvez pas ici aujourd'hui, mais c'est pas très grave. Rémi a fait d'autres albums. Et La rivière de mon grand-père, c'est un album qui vous tient à cœur, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est une histoire d'un petit garçon qui s'appelle Mimi et son grand-père, Pépère. Et donc, il se retrouve pour une partie de pêche.
C'est ça.
Et qu'est-ce qu'il y avait de pourquoi vous avez voulu cette histoire entre deux personnages, entre deux générations? C'était quoi votre envie sur ce livre?
Alors, la pêche, c'est vraiment un prétexte.
Oui.
Voilà, c'est vraiment, parce que moi, c'est très clairement autobiographique. Mm-hmm. C'est pas un moment, c'est pas une journée qui s'est vraiment passée. Oui. C'est une journée un peu idéalisée. Et j'avais besoin, en fait, ça faisait des années que je voulais rendre hommage à cet homme aussi, que moi, qui a beaucoup bercé mon imaginaire et qui a en fait nourri les personnages. Par exemple, le capitaine Sherman, il a une part de...
Oui. Ah ouais, complètement. Le côté humoristique, un peu facétieux.
Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, ce qui est difficile avec l'autobiographie, c'est que jusqu'à un certain âge, c'est compliqué de trouver le bon prisme pour raconter des choses qui sont très personnelles. Mmh. Et donc j'avais cette envie de raconter une histoire avec lui, mais je n'avais pas du tout le comment faire. Et puis ça m'est venu après une grosse épopée comme cette aventure de pirate. Mmh. Il y avait aussi besoin d'une pause, d'un truc calme. Ouais, ouais. C'est-à-dire que là, j'ai abandonné la mer et son tumulte pour la rivière et son calme plat, quoi.
Donc on est dans un lieu calme, isolé, et donc il y a il se parle, c'est pour se parler en fait, finalement ils se parlent, et voilà. Donc cet album, donc, qui est sorti hier aux éditions La Joie de lire, c'est La rivière de mon grand-père, qui est un très très bel album, très très bouleversant. Là aussi on peut dire qu'il est aussi possible de le lire quand on est plus jeune.
Oui,
ça passe pour tout le monde aussi. C'est
ouais,
bon
moi
public,
j'aime bien ça, hein, parler à tout le monde, essayer de voir
ça fonctionne sur les adultes aussi, hein, c'est pas qu'un album jeunesse. Donc, Rémi Farnos, on vous retrouve aujourd'hui donc place de la bande dessinée, où vous allez pouvoir venir le rencontrer, et avec ses albums, donc Les Aventuriers de l'Uraka, aux éditions du Lombard notamment. Merci beaucoup, Rémi.
Merci à vous.
Bonne journée.
Pareillement.
Mi melodía, para después soltarte toda mi porquería. Número uno, antegré la hipocresía. Número dos, avalé tu tecnología. Como yo soy negrita, no me quemo. Tú con tu cara de papel tiene complejo. Rap, 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 la tan blanche MC. Combinación entre La Habana y París, wey. Je viens de vous, solicité une remise. Que me la vuelvas a meter, quiero una visa. Je suis consciente que mon actitud te risa. Muerta de risa, les chaînes se brisent. Je suis une femme de la terre, une sirène dans la mer, une grosse dinde à Noël, ouais. C'est un bon marché de viande dans mon congélo. Estoy cansada y fue puta colonel. Ça serait bien de se mettre tous ensemble. La vérité, tout carré culo, no me engaña. Avec les tons, avec reggaeton, ça va changer, ouais. Pero apúrate que me duele los pies, ouais. Dice Macron que tú estás bien, que él no está loco. Pero tiene el pueblo francés comiendo poco. J'ai mon gage avec vous, j'ai dans mon sang, ouais. Et ma vagina pour colorier tes enfants, ouais. Dice Macron que tú estás bien, que tú estás bueno. Pero tiene el pueblo francés comiendo huevos. J'ai pas fini, non. On jette la pierre et après on dit que je n'en fui, non. Soy azuquita, prieta y perejilo. Un bon marceau de camembert à consumir. Je suis la pauvre vivante d'un exil. Que le pone la salsa a domicile. De chocolat y colatino. N'ayez pas peur de consumer, tengo mi estilo. Monsieur, madame, merci beaucoup, ya me despido. Soy la dame blanche, madre en Pinar del Río. Merci beaucoup.
Bonjour Marie Deschamps.
Bonjour.
Alors, Marie Deschamps, vous êtes autrice et on vous retrouve ici, place d'armes, pour place à la bande dessinée. Oui, c'est tout en place ici. Marie, vous aussi, vous êtes quasiment une régionale du coin parce que vous n'habitez pas très loin de l'île Jourdain.
Pas très loin, Angoulême.
Angoulême. Angoulême, la ville de la bande dessinée, entre guillemets. Alors, donc...
Si je peux me permettre, littéralement, puisque c'est parce que Angoulême est la ville de la bande dessinée que j'y suis arrivée.
Ah, et que c'est donc important pour vous, dans votre carrière professionnelle.
Complètement. Moi, je suis parisienne à l'origine. Mmh. Maintenant, ça fait 25 ans que je ne suis plus parisienne. Et ça fait une dizaine d'années que je me sens justement vraiment angoumoisine, puisque ça fait 13 ans que je fais de la bande dessinée.
Ah.
Donc je suis arrivée par le dessin animé.
Mmh.
Je suis restée pour la bande dessinée.
Puisque, alors, pour ceux qui ne savent pas, à Angoulême, il y a en effet des studios d'animation. Donc
ouais.
Vous avez travaillé sur certaines séries et sur certains films
d'animation. Oui, exactement. Et même quelques jeux vidéo.
Ah oui.
Donc il y a une vraie dynamique industrielle.
Bien sûr.
Mais donc économique. Une vraie dynamique autour de l'image animée.
Mm-hmm.
2D, 3D. Mm-hmm. Et qui s'est installée après la bande dessinée.
Bien sûr.
Mais grâce à la bande dessinée.
D'accord.
C'est ça qui est rigolo, c'est que en fin de compte, comme on ne vit pas de la bande dessinée,
bien sûr,
pour la plupart, on est beaucoup, comme moi, à être intermittent du spectacle, et voilà, et on profite des périodes chômées pour réaliser des œuvres. Exactement.
D'accord. Oui, puisque en effet, on en connaît quelques-uns qui, puisque il faut lire, économiquement parlant, c'est très difficile pour les auteurs de bande dessinée. Donc quelques-uns de temps en temps travaillent dans ces studios à mi-temps pour pouvoir vivre correctement de leur art à côté, de pouvoir créer des bandes dessinées ou créer des livres. On est d'accord, c'est dans ce sens-là aussi.
C'est surtout que, en gros, quand on a une démarche professionnelle, donc de ne vivre que de la bande dessinée et d'illustration, il faut rentrer dans un tel processus de vente, de se vendre, que en fin de compte, moi c'est ce que je pense, on se retrouve un petit peu à saper la démarche artistique. Moi j'ai toujours voulu protéger mon dessin, Donc j'ai un métier qui est le dessin animé, qui est l'animation de personnages, mmh. 2D, 3D, et j'ai un médium artistique qui est le dessin. Et j'ai toujours voulu protéger le dessin, mon dessin, de la démarche commerciale.
D'accord.
Et donc il fallait que je travaille à côté.
D'accord.
Voilà. Et comme en plus mon mari a monté sa maison des éditions, on maîtrise entièrement la chaîne du livre.
De A à Z.
Ça nous permet vraiment de faire...
De créer ce que vous avez envie.
En gros, ouais.
Alors, il faut le dire. Donc, Éric Ventier, donc votre mari, il a créé les éditions Commune Orange.
Exactement.
C'est une petite structure à Angoulême aussi.
Exactement.
Et donc, vos deux derniers ouvrages que vous avez publiés à Commune Orange, c'est Drôle d'oiseau, La pomme et le piège. Voilà. Donc ça, c'est
Drôle d'oiseau, ça commence à dater un peu.
Ouais.
Mais après, moi, comme je travaille, du coup, je suis pas... Je fais des livres à peu près tous les 2-3 ans, on va dire. Mon tout dernier, c'est La pomme et le piège, que j'ai fait toute seule. Donc, il n'y a pas de mots, parce que moi, je ne sais pas écrire, je sais juste dessiner. Donc, c'est une bande dessinée sans texte.
Ah.
Une bande dessinée muette, avec un renard. Et après, bon, moi, je pars du principe que lire de l'image, c'est lire.
Bien sûr.
Voilà.
Et voilà. C'est important.
De la même manière que écrire. C'est dessiné.
Bien sûr.
Puisque chaque caractère de l'écriture est un graphe.
Exactement.
Mais bon. Sinon, juste avant, j'ai sorti un livre qui est l'adaptation d'Alphonse Daudet, qui est La chef de Monsieur Seguin. Donc là, pour le coup, j'ai eu avec Éric Ventier mes deux dernières expériences étaient éditeur-auteur.
D'accord.
Mais précédemment, c'était éditeur-auteur et co-auteur.
Oui, puisque vous avez en effet, avant ces derniers livres, vous avez donc créé des livres avec Éric Ventier.
Ma seule infidélité avec Éric, c'est Alphonse Daudet.
Voilà.
Ça va.
C'est pas mal.
Ça va.
C'est pas mal. Donc oui, en effet, là, sur notamment La pomme et le piège, vous êtes donc autrice complète. Donc
ouais.
Vous avez créé l'histoire, même si cette histoire est sans texte, il faut bien créer, hein, bien évidemment, et vous avez dessiné. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle justement La pomme et le piège? On a dit que c'était un renard, mais il lui arrive quoi à ce renard? Il lui arrive
des aventures. Grave. Alors, le postulat de départ, c'était de raconter l'histoire d'un junior. Ça, c'était mon intention initiale.
D'accord.
Et donc, de partir d'un personnage qui avait vraiment une attitude d'enfant. Donc, lui, il voit une pomme. Première chose qu'il veut faire, c'est aller cueillir la pomme.
Bien sûr.
Ça, c'est le postulat de départ de l'histoire. Mais évidemment, quand il atteint la pomme, après quelques péripéties, quand il atteint la pomme, en vérité, la pomme, ça ne l'intéresse plus. Parce que tout d'un coup, en changeant de point de vue, puisqu'il grimpe dans un arbre, il découvre l'horizon. Et du coup, il est attiré par l'horizon. Et là, on passe à une autre histoire, qui est celle de « Je veux grandir ».
Une quête initiatique.
C'est une quête initiatique. Et à partir de ce moment-là, il va explorer. Et évidemment, le monde est plein de surprises. Et plein de dangers. Donc je ne vais pas raconter exactement ce qui se passe, mais par contre, on arrive au bout d'un moment à la deuxième partie où cet enfant est devenu parent. Et il va revivre avec son enfant la même histoire, sauf que du fait de sa propre histoire, il va refuser à son enfant de partir. Mais les enfants finissent toujours par obtenir ce qu'ils veulent.
Têtus.
Et là, la quête n'est plus celle d'un enfant qui veut découvrir le monde et se découvrir à travers le monde. C'est celle du parent qui doit apprendre à accepter de laisser partir la séparation et puis vivre les dangers. Éric m'a dit quelque chose quand j'ai écrit La pomme et le piège. Même si pour le coup je l'ai écrit en dessinant, je l'ai écrit quand même. Il a dit que j'avais réécrit l'histoire de La chef de Monsieur Seguin.
Ah d'accord. D'où la connexion.
Et en vérité, mais il a complètement raison. Parce qu'en vérité, c'est ma quête.
D'accord.
C'est, c'est mon sujet. Ouais. Et même Drôle d'oiseau, que j'ai écrit toute seule aussi, c'est exactement presque le même sujet. Mais à chaque fois abordé avec un détail scénaristique.
D'accord.
Qui fait qu'on va l'aborder de manière différente, mais émotionnellement, on revient un peu toujours au même sujet. C'est le mien.
D'accord. Et en effet, alors, pour ceux qui ne sauraient peut-être pas trop ce que c'est qu'une quête initiatique, c'est en fait, c'est on grandit, soit avec, souvent avec des personnes qu'on va croiser, ou avec des objets, en fait, c'est ça. C'est on grandit, on apprend, on développe sa personnalité. Avec, avec la rencontre, avec les autres. Voilà, c'est ça en gros. Alors,
on s'initie.
On s'initie et on se fait sa propre personnalité. Dernière chose, graphiquement, ce livre, comment vous l'avez créé graphiquement, est-ce que, quelles sont vos techniques de dessin?
Ok. Alors, il se trouve que c'est une très très bonne question. Parce que je vais y répondre, parce que pour La Pomme et le Piège, il se trouve que j'ai eu une démarche très particulière, qui était de dire voilà, j'ai pas tout mon temps, toute ma disponibilité puisque je travaille.
Bien sûr.
Et en même temps, au fur et à mesure des années et des livres que j'ai faits, je me suis rendu compte que j'avais besoin de commencer et finir quelque chose sans m'arrêter. À chaque fois que je commençais un livre de 80, 100 pages et que je n'avais pas le temps, le temps nécessaire qui est pas, qui n'est pas un temps industriel, pour le finir, quand je revenais dessus, je le recommençais.
Là là.
Puisque, en gros, chaque livre est une quête initiatique
bien
pour
sûr,
moi. C'est un voyage. Et du coup, je veux le commencer et le terminer pour grandir
vous
avec.
Aussi.
Donc, je me suis posé la question, tout simplement, de comment faire pour pouvoir commencer, finir, commencer, finir, commencer, finir un livre en chapitres.
D'accord.
Et je me suis industrialisé, entre guillemets, mon process de créativité en chapitrant. Et j'ai pu, comme ça, travailler une semaine par mois sur le livre en commençant, finissant un chapitre.
Bien sûr.
Puis le mois suivant, en commençant, finissant un deuxième chapitre, etc. Et c'était une expérience d'organisation de mon temps de travail pour répondre à mes propres spécificité de création.
D'accord.
Et ça a marché. Je ne ferai pas un livre de 80 pages comme ça, parce que c'est quand même... d'abord parce que ça ne me ressemble pas. C'est Eric qui aime prendre du temps. Moi, j'ai plus tendance à avoir une écriture très en mouvement, donc assez speed.
Okay.
Je décris le mouvement, mais du coup, je fais des livres temps réel, quoi.
D'accord.
Quand on commence et qu'on finit un livre, généralement, avec moi... on a passé autant de temps que les personnages dans leur histoire.
D'accord.
Donc voilà. Mais il se trouve que voilà. Donc j'ai tout storyboardé, puisque c'est comme ça que je raconte
bien
mes histoires. Et puis ensuite je suis passé au processus
de dessin.
Chapitre par chapitre. Voilà. Donc en 9 mois, j'ai dû réussir à me débloquer 5-6 semaines. Et j'ai pu faire ce livre sans avoir cette espèce de frustration, mais même, je dirais même plus, cette déchirure dans le processus de création et de narration qui faisait que j'arrivais pas à continuer un livre, j'étais obligée à chaque fois de le recommencer. Là, j'avais l'impression de finir à chaque fois un chapitre, donc une histoire.
9 mois comme la gestation.
Ah bah...
D'accord. Alors, j'ai juste une question.
Et 9 mois comme le temps que j'ai entre deux productions en intermittent du spectacle aussi.
J'ai une question. Est-ce que sur votre stand ici, place à la bande dessinée, est-ce que vous avez le printemps d'Ohan?
Oui, il en reste quelques-uns. Ouais.
J'adore. Que j'adore. J'avais fait un article dessus, c'est tellement formidable. Là, si vous ne connaissez pas, franchement, allez-y, c'est tellement beau. Donc, en plus du printemps d'Ohan, Marie Deschamps, sur votre stand, il y a donc La Pomme et le Piège, Drôle d'oiseau et La Chèvre de Monsieur Seguin, entre autres.
Et Pierre et Loup.
Pierre et Loup, ah oui, ça c'est
vrai. Et puis après, il y a de la littérature illustrée.
D'accord.
avec L'Animal Montagne.
D'accord.
La Chèvre de Monsieur Seguin, c'est aussi la littérature
bien sûr.
Illustrée. Donc voilà.
Plusieurs choses.
Oui.
Donc, si vous avez envie de rencontrer Marie.
Et moi qui gribouille les livres.
Voilà. Si vous avez envie de rencontrer Marie Deschamps sur son stand, de venir discuter avec elle de ses nombreux ouvrages, eh bien, vous pouvez le faire aujourd'hui. Merci beaucoup, Marie
Deschamps. Avec grand plaisir.
Marie Deschamps, c'était
beaucoup.
Très drôle. Merci beaucoup.
Je vous redis
que le printemps d'Oanne, c'était formidable. Merci.
Bonne journée. Ça me ravit.
Bonne journée.
Bonne journée à vous.
Et on se quitte avec une petite pause musicale, bien sûr, avec la chanson Ciné Rock et bande dessinée d'Eddie Mitchell. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va être une sacrée découverte.
Petit castor Red Rider, Woody et Ratatin, Buck Bunny, Sunny Tumblr, ou Cirage et Blondin, héros de BD ou de série B, désormais vous êtes. Damned, je suis fait comme un rat. Karloff, Cushing, Christopher, Lee, Peter, Lawrence, Price. On en fait remplir des salles à partir par la place. Toujours critiqué, jamais nominé. Ironie, vous êtes toujours du vénéré. Ciné, rock et bande dessinée. Hey, ciné. Dans ce Christ noble d'ador et de cela. Damned, je suis fait comme un rat. Les filles en blue jeans qui allaient au bal, en robe Vichy et cul de cheval, craquaient sur Hollywood avec la pilule, ça n'a plus le même goût. Hollywood, ça n'est plus ça du tout. Au secours, au secours, au secours, au secours. Ciné, ciné, rock et bande dessinée. Hey, ciné, rock et bande dessinée. Maintenant c'est très stable, t'adore et tout cela. Damné, je suis fait comme un rat. Ciné, rock et bande dessinée. Ciné, rock et bande dessinée. Je suis fait comme un rat. Alors c'est très noble d'abord et tout cela. Damned, je suis fait comme un rat. Alors c'est très noble d'abord et tout cela. Damned, je suis fait comme un rat.
Et voilà, nous sommes de nouveau de retour sur la Place d'Armes. Ce sera notre dernière interview. Et surprise du jour, nous avons une invitée très spéciale.
Bonjour.
Oui, bonjour. Bonjour, Séverine Caille.
Bonjour.
Alors, Séverine Caille, vous aussi, vous êtes un peu la régionale L'Étape, puisque vous n'habitez pas loin.
Alors, j'habite pas tout à fait à L'Isle-Jourdain, mais par contre, je vais faire ma 20e rentrée à l'école de L'Isle-Jourdain en septembre. Donc, oui, je pense être une régionale de L'Étape.
Mais alors, vous dites que vous faites votre rentrée, c'est-à-dire que vous êtes professeur, vous êtes enseignante.
Oui, je suis enseignante en CM1, CM2 à l'école de L'Isle-Jourdain, dont j'ai aussi la direction d'école. Et j'ai créé un prix il y a maintenant 6 ans, un prix littéraire jeunesse qui s'adressait au départ uniquement au CM et au 6e, puisque c'était le nouveau cycle 3, donc il fallait faire du lien entre l'école et le collège. Donc pendant un an, on a fait une sélection de livres. Le concept au départ, c'était vraiment de faire découvrir des livres aux enfants, évidemment, de leur donner envie de lire et de leur faire découvrir des artistes du coin, puisque l'idée, c'est de les faire voter pour le livre qu'ils préfèrent et de leur faire rencontrer l'artiste qu'ils ont préféré. Donc on s'est dit qu'il fallait que l'artiste habite pas trop trop loin. Et puis en fait, c'est devenu une vraie marotte, une vraie envie de leur faire découvrir uniquement des auteurs du coin. Donc c'est le parti pris du prix qu'on a appelé le prix Passerelle.
Mais oui, Passerelle, parce qu'on fait on fait des ponts, on construit des ponts.
C'est ça, on fait plein de passerelles. L'idée, c'est de faire des passerelles entre les écoles qui participent au prix, entre les écoles et les collèges de secteur, entre les écoles et les familles, entre les écoles et les bibliothèques municipales, puisque les bibliothèques municipales sont invitées à acquérir les livres de la sélection pour pouvoir les avoir en bibliothèque. Donc les enfants empruntent ou dans le fond de classe ou au CDI de leur collège ou à la bibliothèque municipale.
Donc un très beau projet. Voilà. Pardon, excusez-moi.
C'est vous qui coordonnez tout ça ?
Oui.
C'est compliqué là parce qu'il y a beaucoup de choses. Et alors, vous venez d'expliquer que donc, c'est un prix comment sont pardon. Les livres, comment ils sont qui peut rentrer dans cette sélection de livres, pardon?
Donc les livres sont choisis en fonction du lieu de résidence ou du lieu de naissance des auteurs ou illustrateurs. Donc je m'amuse à chercher des gens du coin. Alors, du coin, c'est un peu large. Oui, en gros, c'est un ancien Poitou-Charentes. Ouais. Hein, c'est c'est l'ancien Poitou-Charentes pour aller vite. Puisque l'idée, c'est qu'ils viennent rencontrer nos élèves et puis qu'on leur montre aux enfants que la littérature jeunesse, c'est pas quelque chose d'inaccessible ni géographiquement, ni culturellement. De leur montrer que voilà, les illustrateurs, parfois, ils habitent tout près. On a quand même découvert un auteur BD qui est à 200 mètres de l'école. Donc Jean-Philippe Perrault, il habite tout près de l'école. Donc les enfants qui viennent à pied à l'école passent devant son atelier tous les jours. Donc c'est quand même chouette de l'avoir découvert comme ça, parce que c'est vraiment le cas. Je passe beaucoup de temps dans les salons du livre, dans les salons jeunesse, dans les salons BD. Je prends des contacts avec des gens qui ont des compétences dans ce milieu pour avoir un carnet d'adresses qui grossit, donc il commence à être conséquent, l'air de rien. Donc j'ai beaucoup d'auteurs, autrices, illustrateurs, illustratrices jeunesse dans mon répertoire que j'ai dû agrandir puisque j'ai commencé avec une sélection CM 6e. Puis mes collègues m'ont un peu fait les yeux doux en me disant « Bah oui, mais bon, les CP, les CE, ils aimeraient bien lire aussi. » Donc la première année, on a fait que sur l'île Jourdain pour les cycles 3. La deuxième année, on a ajouté les cycles 3 du secteur de Charroux. La troisième année, on a ajouté une sélection CE pour les deux secteurs. Puis une sélection maternelle, toujours sur les deux secteurs. Puis une sélection ado. Et cette année, une sélection ado qui s'est étendue jusqu'à Lussac-les-Châteaux.
D'accord.
Donc cette année, on fait lire sur 3 bassins de collège, Charroux, Lille-Jourdain, Lussac. Donc il y avait 600 élèves cette année. Ouais.
Et donc ce prix, c'est le prix passerelle, mais finalement, il est décliné donc en plusieurs sous-catégories.
Oui, c'est ça. Du coup, il y a 4 sélections. Donc il y a la sélection originelle, la sélection passerelle. Et puis la sélection pour les CPCE, on l'a appelée la sélection petite passerelle. La sélection maternelle s'appelle mini passerelle. Et puis la sélection pour les 5e, 4e, 3e s'appelle la sélection prix ado, passerelle ado. Donc 4 sélections de 4 livres. Donc là, je suis à 16 livres. Donc voilà.
Ah, c'est pas rien, ouais.
16 auteurs, illustrateurs qu'il faut trouver chaque année, différents, adaptés à la classe d'âge.
Et alors, on a beaucoup parlé ici de bandes dessinées, d'illustrations. On est d'accord que ce ne sont pas que des bandes dessinées, que des illustrations. Il peut y avoir aussi des romans.
Oui, c'est ça, parce que du coup, la contrainte de trouver des gens du coin, c'est déjà une contrainte forte. Donc je me mets pas une autre contrainte à faire que de la BD ou que du roman. Donc pour le coup, les supports sont variés. Ça peut être de l'album, du roman, de la nouvelle. Il y a de la BD sans texte aussi, hein, comme le proposent Catherine Roma et Jean-Philippe Perrault, par exemple. Mais oui, du roman, de la BD, du manga. Voilà, pour le coup, là, le support est un peu plus diversifié. Et ça apporte aussi pour tous les lecteurs, parce que dans une sélection, quelle qu'elle soit, il y a des petits lecteurs et des grands lecteurs. Donc il y a des enfants à qui le roman court fait peur déjà, et puis des enfants pour qui l'album, c'est un peu trop facile. Donc il faut de tout dans la sélection pour que chacun y trouve son compte aussi en tant que lecteur.
Ce n'est pas une obligation de lire toute la sélection.
Alors, c'est une sélection qui est proposée, c'est un prix littéraire. Donc, les enfants qui n'ont pas du tout envie d'aller vers un des livres de la sélection, ils n'y sont pas obligés, puisque l'idée, c'est qu'ils lisent et ils se fassent un avis. Après, ils sont invités quand même à goûter. C'est comme un peu à la cantine, quoi. On goûte, on a le droit de ne pas aimer. Mais on essaye parce qu'on s'est aperçu aussi, on commence à devenir des experts avec les enfants, que quand on trouve un livre, parfois on le choisit à la couverture et puis on peut être déçu du contenu. Et parfois, on n'y va pas parce que la couverture ne nous invite pas à y aller. Et puis en fait, le contenu est super. Donc on essaye de dépasser aussi ces étapes-là, de voir comment on choisit un livre, pourquoi on l'aime, pourquoi on ne l'aime pas. Ils ont tous un carnet de bord, je fabrique des carnets de bord pour les enfants. Donc chaque sélection a son carnet de bord, ils peuvent prendre des notes sur ce qu'ils ont aimé, une phrase fétiche, qu'est-ce qu'ils retiennent de ce livre-là, etc. Donc ils ont tous des carnets de bord.
Donc les enfants, ils sont invités donc à lire des livres soit directement dans la classe, soit dans les bibliothèques partenaires. Et après, comment ça se passe dans la classe pour le vote?
Alors,
ils ont le temps déjà, il y a un temps pour lire.
Oui, on est sur. On lit en gros de janvier jusqu'à avril-mai. Donc, on a quand même plusieurs mois. Donc, les livres circulent dans la classe. Hein, les classes s'investissent dans une ou deux séries de livres. les livres circulent dans la classe et je donne une date imposée pour le vote. Donc là, il y a une grande journée de vote dans toutes les classes. Les collègues jouent vraiment le jeu avec des isoloirs, des urnes, un bureau. Il y a une vraie séance d'éducation morale et civique. Ah ben oui, c'est vrai. Pour les collègues instit, c'est l'occasion de faire une séance d'éducation, d'enseignement moral et civique. Donc ils mettent ça en place avec. Alors, j'ai des photos d'urnes, d'isoloirs qui sont vraiment super, des enfants très investis qui prennent leur rôle très à cœur. Donc je fais des feuilles d'émargement. Ils ont une carte d'électeur prix passerelle. Et ils votent et ils m'envoient leurs résultats. Et moi, je comptabilise tous les votes et j'invite l'auteur qui a le plus été plébiscité.
Et qui était hier, pas loin d'ici, qui était invité dans les classes?
Et bien hier, nous avons eu la grande chance d'accueillir Fabien Octolambert, qui est donc l'illustrateur de Chocochat et moi. Et Chocochat et moi a remporté la sélection Petite Passerelle, donc pour les CPCE. Et donc, il a été invité à venir rencontrer les élèves hier. Donc, hier, il a rencontré 4 groupes d'élèves sur l'ensemble de la journée. Une chaude journée, hein, dans tous les sens du terme. Et ce matin, là, il est sur place à la BD. Donc, voilà, on espère pouvoir renouveler cette expérience d'avoir l'auteur, quand il vient rencontrer les élèves, qui puisse rester après sur le festival Ali Jourdain.
Et la semaine prochaine, il y a une autrice qui vient aussi.
Ouais, alors, elle ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et tant pis, mais tant pis pour le festival, mais tant mieux pour les élèves qui la rencontreront quand même, puisque l'illustratrice du Grimoire d'Elphi, qui est une BD qui fait toutes les têtes de gondole en ce moment, qui est une BD fantastique, a accepté d'abord de participer au prix et de venir rencontrer les élèves. Donc elle sera dans les classes vendredi 20 juin toute la journée.
Mini Ludwine,
ouais. Voilà.
Merci Séverine Caille de nous avoir donné quelques explications sur un prix qui prend de l'ampleur, qui est donc le prix Passerelle, qui est avec plein de petites sous-catégories, et donc ça va de la maternelle jusqu'au collège.
Ouais.
Et le prix s'est terminé il n'y a pas longtemps, donc on va bientôt relancer en septembre tout ça pour une nouvelle édition.
C'est ça, là on attend Mini Ludwine la semaine prochaine, et puis après on va chercher déjà des livres pour la prochaine sélection, en espérant faire lire encore plus d'enfants. Cette année ils étaient presque 600, donc record à battre.
Merci beaucoup, c'est vrai. On vous retrouve ici donc place avec des ambassadeurs, c'est-à-dire des élèves qui sont avec vous pour présenter les livres. Merci beaucoup, bonne journée à vous.
Merci beaucoup, et on se quitte en musique, et cette fois pour de bon, puisque c'est l'heure d'aller manger pour nos invités et pour nous-mêmes aussi, parce qu'il est déjà midi. Donc on se quitte avec Billie Eilish et son titre Lunch.
Voici une illustration du Léviathan.
Aujourd'hui, pour arracher les gens à leur télé, ça suffit plus, les belles histoires.